Je ne voudrais pas quitter ce territoire que nous allons bien quitter après-demain sans rendre hommage à notre merveilleux roi et seigneur que nous avons vu agir durant ces 3 dernières semaines ici au Québec. Nous l'avons vu restaurer des vies. Nous l'avons vu réconforter ceux qui sont brisés, qui ont le cœur brisé. Nous l'avons vu consoler des personnes. Nous l'avons vu se pencher sur la souffrance de malades et les toucher. Et je voudrais rendre hommage et honneur à mon grand roi et Seigneur que je veux aimer de tout mon cœur. Et vous lire avec le prophète Jérémie cette parole. Ah, Seigneur éternel, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Et la parole de l'Éternel qui est adressée en retour à Jérémie et qui lui dit, et voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et je voudrais juste vous dire combien nous avons été touchés de voir particulièrement un couple ici à Victoriaville, touchés par la grâce du Seigneur. Et je pense que le Seigneur n'a pas fini dans ce couple, mais il a fait une œuvre de transformation merveilleuse. Des personnes qui ont été métamorphosées, pour ainsi dire, sous nos yeux, et que le Seigneur restaure gentiment, petit à petit, avec sa main douce et bénissante. Et à Montmagny, où nous avions un séminaire, une parole de connaissance a été donnée pour une certaine dame qui était très souffrante et qui disait, je touche quelqu'un qui a une douleur dans une articulation. Je l'ai dit hier déjà, ceci, mais je le répète encore pour remercier le Seigneur de cette guérison-là, ce matin. Et il y avait une dame qui avait depuis 2 mois des douleurs, de grandes douleurs dans l'épaule gauche, que le Seigneur a instantanément délivré, parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant, parce qu'il nous aime, parce que quand il voit que nous souffrons, il est ému de compassion à notre égard. Il est grand et miséricordieux. Il est non seulement puissant, mais il est compatissant. Il compatit à nos souffrances, si bien que nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Nous pouvons venir à lui avec toutes nos souffrances, toutes nos questions. Le Seigneur ne nous rejettera jamais. Il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Puissions-nous connaître son cœur de paix, son cœur plein de miséricorde qui déborde d'amour et de grâce et de bonté à notre égard. Puissions-nous, nous aussi, avoir un cœur qui vibre à son égard. Un cœur qui dit, c'est dire merci, mon Seigneur et mon Dieu. Je ne t'avais pas jamais vu de pareille manière. Mais aujourd'hui, tu m'as révélé ton cœur. Puissions-nous lui dire nos sentiments, nos émotions, ce que nous éprouvons à son égard. Et ne pas fermer notre bouche, ce qui serait tellement attristant pour lui. Et hier, au séminaire, une dame est venu me dire, je ne le savais pas, qu'il y a 2 ans en arrière, je faisais une réunion de dames à l'église Sans Frontières, ici à Saint-Hubert. Et elle était à cette réunion, cette dame, et elle était très malade. Cette dame est venue après la réunion et m'a demandé de prier avec elle. Et je lui avais dit que le Seigneur lui donner la guérison qu'il fallait qu'elle la prenne. Cette dame était en chimiothérapie avec 4 traitements de chimio. Le cancer donc déclaré. Et elle avait un lymphome des ganglions, m'a-t-elle dit, dans le ventre. Elle avait le cancer dans le ventre. J'ai prié avec cette dame et je lui dis, le Seigneur veut te donner la guérison. Je ressentais que la puissance du Seigneur était sur elle. Je lui dis, prends cette guérison, le Seigneur veut te la donner. Fort de cette parole, elle est rentrée à la maison. Et a dit, je prends cette guérison, Seigneur. Je la prends. Et elle m'a dit hier qu'elle avait immédiatement cessé tout traitement. Ce qu'il faut faire aussi, il fallait qu'elle ait la foi pour le faire. Elle a cessé tout traitement et elle est guérie aujourd'hui toujours. Complètement guérie du cancer. Seigneur, je veux te louer pour cette dame. Merci parce que tu l'aimes et tu continues ton œuvre dans son cœur, Seigneur. Et je te remercie de me l'avoir envoyée et de me l'avoir fait savoir. Et moi, en retour, je viens te remercier de tout mon cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Et tout à l'heure, juste au début de la réunion, une dame parmi vous est venue me rappeler qu'il y a 4 ans, et je me souviens de cette parole-là, c'est rare quand je me souviens de toutes les paroles quand même que le Seigneur me donne, mais celle-là, je m'en souviens très bien, que j'étais ici et que je l'ai donnée ici et que c'était pour quelqu'un qui était là-bas, certaines choses qui vous marquent. Et j'ai dit que le Seigneur touchait quelqu'un qui avait de terribles maux de tête liés à de la sinusite. Et cette dame a senti au moment où j'ai dit cette parole que le Seigneur la touchait, elle a senti comme un craquement dans son nez et ses sinus qui se débouchaient à l'instant même. Et elle m'a dit ce matin, depuis 4 ans, je n'ai plus jamais eu de maux de tête. C'était fini. Nous voulons dire Alléluia au Seigneur. Alléluia au grand médecin. Alléluia à celui qui nous connaît, qui a compté les cheveux de notre tête. Alléluia, celui qui est tout puissant, tout puissant. Un dernier témoignage, non moins frappant, est celui d'un jeune homme qui, lors d'une convention chrétienne en France, dans notre ville à nous, à Chambéry, en Savoie, était venu et était extrêmement, disons, blessé à cause de son infirmité. Il bégayait depuis sa tendre enfance. Et il avait 18 ans. Et Samuel et moi, nous prions pour les malades, nous imposions les mains aux malades. Les gens venaient par fil pour s'approcher du Seigneur. Et nous, on faisait juste d'imposer les mains, comme le Seigneur a dit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que nous avons fait. Alors nous avons imposé les mains à ce jeune homme aussi, mais rien d'immédiat ne s'est passé. Mais vous allez voir, le Seigneur n'avait pas fini. Le jeune homme est allé à sa place. Nous avons continué de prier pour les autres malades. Et d'un seul coup, un bruit dans les gens qui étaient dans l'auditoire. Alors nous nous sommes retournés, nous avons regardé qu'est-ce qui se passe. Le jeune homme était debout avec son camarade à côté. Et il était debout, il avait la bouche ouverte, comme ceci. Et comme maintenue ouverte par une force supérieure. Pendant quelques instants, comme paralysé comme ça. Et pendant ce temps-là, tout le monde a vu la langue se retourner dans sa bouche. Alléluia. Nous l'avons vu de nos yeux. Et après, la bouche s'est refermée, il n'a plus jamais bégayé. Le grand chirurgien est intervenu à sa façon et sans douleur. Quelle grâce! Quelle puissance! Alors aujourd'hui encore, je veux dire à mon Seigneur et mon Dieu, oui, tu es réellement ressuscité. Oui, tu es réellement vivant. Oui, tu sièges réellement à la droite de Dieu. Oui, tu vas revenir un jour. Et oui, je veux être prête quand tu reviendras. Puissions-nous tous l'être quand il sera là. Parce qu'après, ce sera trop tard. Quand il viendra nous chercher, c'est là qu'il faudra être prêt. Alors je vous exhorte. Cependant, le Seigneur me dit qu'il est en train de toucher quelqu'un ici. Et je vais le dire maintenant. C'est une personne qui a le cœur brisé. à cause de mauvais comportements humains. Je suis venu, dit le Seigneur, guérir les cœurs brisés. Et je viens te toucher, toi qui as subi les mauvais traitements, le mauvais comportement, de même d'être humain, même chrétien. Je viens toucher ton cœur et je viens mettre mon baume sur ton cœur et guérir cette blessure profonde que personne ne peut guérir, que personne ne peut cicatriser. Mais je suis le grand roi, je suis ton berger, je suis ton père et je mets du baume sur ton cœur brisé. Reçois ma guérison dans ton cœur brisé. Et désormais, va, pardonne à ceux qui t'ont offensé, pardonne, pardonne, comme moi je t'ai pardonné. Et tu verras que cette blessure ne te fera plus mal, dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Soyons à l'écoute de la parole de Dieu.
Seigneur, nous voulons te remercier d'être présent au milieu de nous. Nous te louons parce que tu veilles sur chacun d'entre nous et tu es là pour nous attirer toujours plus près de toi. Merci encore pour tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout ce que tu veux maintenant nous communiquer dans ton amour. Merci d'ouvrir nos cœurs pour que cette parole puisse encore porter du fruit dans nos vies et que nos vies te glorifient vraiment. Merci Seigneur, aide-nous, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre et m'aide aussi à parler selon ton conseil, selon ton plan et pour ta seule gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, agis toujours de différentes manières. Nous devons toujours être attentifs à ce qu'il veut faire. Et si nous sommes bien attentifs, le Seigneur, lui, sera attentif pour te bénir et te visiter. Mais si tu n'es pas attentif à ce qu'il veut te dire, pourquoi veux-tu qu'il soit attentif pour te bénir? La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le premier pas est toujours de votre côté. Approchez-vous et il s'approchera. Ce n'est pas approche-toi, Seigneur, et puis moi je m'approcherai. C'est approche-toi d'abord et lui s'approchera. Amen. Ainsi, soyons attentifs quand Dieu parle, afin que cette parole ne tombe pas dans un terrain mal préparé et que ces quelques paroles encore puissent être une bénédiction pour nos âmes à tous. J'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, quelques versets bien connus qui vont nous révéler cinq vérités essentielles pour une vie chrétienne victorieuse. Cinq vérités essentielles pour une vie chrétienne victorieuse. Vous dites, il en faut cinq, ça suffit? J'ai cru que... C'est des vérités bibliques. Ce n'est pas des conseils. Les conseils humains, ça ne change pas beaucoup. Mais vous savez qu'une seule parole de Dieu peut faire des merveilles. Avec une parole, Dieu a créé le monde. Il n'y a pas de limitation avec Dieu. Cinq vérités essentielles de la parole de Dieu. Luc 9, on va lire à partir du verset 57. Et nous allons méditer le dernier verset tout spécialement. Mais lisons à partir du verset 57 pour avoir le contexte de ce passage. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, donc au Seigneur, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi !» Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et vous savez, quand il dit cela, en ce temps-là et du temps du Seigneur, quand on disait qu'il fallait prendre congé de sa maison, ça durait plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Ce n'était pas une question pour dire, écoutez, maintenant je m'en vais, au revoir, monsieur, dame, maintenant je vais sur... Non, non, pas du tout, ça durait longtemps. Et ça durait tellement longtemps qu'il pouvait y rester. Et oublier tout ce qu'il avait promis au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je me suis rendu compte ce matin que c'était l'église du semeur. C'est merveilleux. Mais moi, ce matin, je vais compléter la pensée. Nous allons parler du laboureur. Vous pouvez semer, mais si vous n'êtes pas un bon laboureur, vous ne récolterez rien du tout. C'est Jésus qui donne l'image du laboureur. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, il voulait lui dire, attention, si tu t'en vas là, je sais que tu ne vas plus revenir, toi. Il voulait lui dire, mais quand tu mets la main à la charrue, tu as le désir maintenant. Tu veux maintenant me suivre? Eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant le moment de te décider et puis d'obéir. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous parle, oui Seigneur, mais nous n'obéissons pas tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, tout s'estompe, on oublie tout. On oublie tout! Dieu nous a parlé, Dieu vous a parlé de tant de façons. Et il n'y a plus rien du tout, quand on n'obéit pas tout de suite. C'est ce que Jésus voulait dire ici à ce jeune homme. Non, 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 ne t'en va pas, je te connais, je ne te verrai plus. Si tu mets la main à la charrue, quand Dieu te parle, obéis. C'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous ici. Si nous voulons grandir spirituellement, voilà l'attitude que nous devons avoir. Si quelqu'un met la main à la charrue. Il y a donc l'image d'un laboureur. Et ce matin, en me levant, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises quelque chose pour nos amis. Eh bien, voilà ce que le Seigneur m'a donné ce matin. C'est tout frais. C'est tout frais. Le laboureur doit faire cinq choses, ou doit s'attendre à cinq choses, s'il veut bien récolter. Premièrement, un laboureur doit avoir un objectif. Il a un champ, et c'est dans ce champ-là qu'il doit cultiver. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il doit labourer. Vous n'avez jamais vu un laboureur aller, il va dans tous les sens, oh, ce terrain, tout m'appartient ici, il va dans tous les sens. Est-ce que ça marchera? Il va y avoir des réclamations. Le laboureur doit avoir un objectif. Il ne peut pas aller dans tous les sens, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas semer là où il veut. Il a un objectif, et cet objectif, c'est Jésus. Lorsqu'on veut glorifier le Seigneur, lorsqu'on veut être un bon laboureur, la première des choses, c'est d'avoir un bon objectif, qui est Jésus. Et Jésus ne doit pas seulement être justement celui qui pardonne nos péchés, mais comme à ce jeune homme-là, Jésus voulait lui dire, il faut que le Seigneur soit vraiment le Seigneur de ta vie. Comme vous l'avez souvent entendu, beaucoup de chrétiens ont Jésus comme leur sauveur. Mais ils l'ont renié, le mot est fort, mais c'est comme ça, comme leur Seigneur. N'est-ce pas vrai? Beaucoup. C'est pourquoi un jour, Jésus, il était fatigué de certains disciples, entre guillemets, qui étaient là tout le temps derrière lui. Et qui disait « merveilleux, merveilleux, merveilleux », il le louait et tout, mais il n'obéissait pas. Il parlait, et ça rentrait ici, ça sortait par là. À un moment donné, Jésus est outré, il a dit « arrêtez-vous de me louer, de dire tout, je suis merveilleux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Voyez-vous, ce qui intéressait le Seigneur, ce n'était pas tellement « Seigneur par-ci, Alléluia par-là, gloire à Dieu ». Derrière tout ça, le Seigneur voulait aller en profondeur, car la semence, si elle n'est pas semée en profondeur, elle ne portera pas des fruits. Les oiseaux viendront, tout va t'emporter, il n'y a plus rien du tout au bout de 5 minutes. Il veut que cette semence aille en profondeur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Voyez-vous, bien souvent, nous prononçons le nom du Seigneur, qui veut dire « Seigneur, je suis là, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et tout de suite après, on fait ce qu'on veut. On n'a plus le sens des mots. On prononce des mots qu'on ne vit pas. On tombe dans des habitudes, dans des rites. Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Mais en réalité, nous ne vivons pas ces choses. Et nous risquons de tomber dans une certaine religiosité. On a des habitudes. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, ceci, cela. Mais quand il faut lui obéir, il n'y a plus rien du tout. Il y a comme une hypocrisie. Nous avons des belles paroles dans notre bouche, mais la volonté ne suit pas. On quitte l'église, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Vous ne reconnaissez plus la personne d'un seul coup. C'est comme si la personne avait un masque dans l'église. Et quand elle quitte l'église, c'est tout à fait différent. On a l'impression qu'elle n'a rien entendu. On a l'impression que rien ne s'est passé. N'est-ce pas tragique ? Un objectif, mes amis, si vous voulez porter du fruit, parce que j'ai bien dit 5 vérités essentielles, pour une vie chrétienne, fructueuse. Fructueuse. Premièrement, Jésus, le Sauveur, c'est vrai. J'espère que tout le monde ici a accepté Jésus comme son Sauveur. Et vous savez, quand on parle de Sauveur, là aussi peut-être, il faut encore donner des précisions. Il est le Sauveur de ceux qui ont réalisé qu'ils sont perdus. Si vous dites à quelqu'un, si quelqu'un dit par exemple, « Ah, oh, Jésus est mon Sauveur, il m'a sauvé. » Ah donc tu étais perdu ? Ah non, non, pas du tout. Mais comment ? Moi je n'étais pas perdu. Mais il est ton Sauveur. Et tu n'es pas perdu. Regardez la contradiction. Il est mon Sauveur, d'accord. Il t'a sauvé de quoi ? De rien du tout. Il est venu sauver les perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et quand on réalise qu'on était perdu, loin du Seigneur, qu'on l'a déshonoré de tant de manières, et qu'on vient à lui en disant « Oh Seigneur, je méritais l'enfer éternel, ton courroux sur moi, ton jugement, je t'ai déshonoré de tant de façons. » Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on entend ces paroles, qui doivent pénétrer jusqu'au fond de nous-mêmes, tout cela doit nous amener à ses pieds en disant « Seigneur, je suis perdu. » Tous les hommes qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans les évangiles ou dans la Bible, ce sont des hommes qui se sont courbés devant Dieu dans la poussière, qui ont réalisé qu'ils étaient perdus et que Dieu seul était grand et que Dieu seul devait être honoré. Je suis perdu, Seigneur. Toi seul, et tu es venu sauver un homme, une femme perdue comme moi. Et alors à ce moment-là, quand on réalise notre état de perdition éternelle, quand nous entendons la bonne nouvelle de Jésus le Sauveur, alors là, c'est une bouée de sauvetage. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Jésus, tu es mon Sauveur, tu m'as sauvé, tu m'as libéré de cette vie de rébellion, de cette vie loin de toi. Seigneur, c'est extraordinaire. Je sais d'où tu m'as sorti et désormais je veux vivre pour toi. Alléluia. Le mot Sauveur a un sens à ce moment-là. Et ensuite le mot Seigneur. Maintenant que tu m'as sauvé, je veux faire ta volonté. Le Seigneur ne vous libère pas pour faire ce que vous voulez. Le Seigneur vous libère pour faire sa volonté et pour lui appartenir entièrement. Amen. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé pour servir Dieu, pour aimer Dieu, pour le servir. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Et quand Dieu nous sauve, c'est pour rétablir cette relation, pour le servir. Si vous ne le servez pas, vous allez vous servir vous-même. Et vous allez où ? Alors vous allez servir d'autres personnes ou d'autres choses.
et vous allez en être esclaves. Mais si nous servons le Seigneur, alors à ce moment-là, nous expérimentons cette plénitude extraordinaire. Mais il faut dire, Seigneur, prends ma vie. Elle est à toi. Tu m'as sauvé. Je ne m'appartiens plus. Mes yeux ne m'appartiennent plus. Ma bouche ne m'appartient pas. Mes oreilles ne m'appartiennent pas. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais à toi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Avez-vous fait cette prière? Me voici, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Tu m'as sauvé. Maintenant, tu es mon Seigneur. C'est-à-dire, je ne veux plus faire ce que je veux, mais ce que tu veux. Sincèrement, profondément, l'avez-vous fait? Beaucoup de chrétiens, moi je suis sauvé, alléluia. Et puis c'est terminé. Et je continue de faire ce que je veux. Non. Voilà pourquoi il y a tant de vies stériles parmi les chrétiens. Fais de Jésus ton, non seulement ton sauveur, mais ton Seigneur. À qui tu dis, me voici pour faire ta volonté. Alléluia, vous serez étonné de voir tout ce que Dieu peut faire dans une vie entièrement consacrée. Entièrement consacrée. Vous serez étonné. Vous ne tournerez pas en rond. Deuxième chose, il faut que j'aille un peu vite maintenant, sinon. Deuxième chose que le laboureur doit faire, quand on laboure, le laboureur doit retourner la terre. Vous êtes au courant ? C'est tout simple ce que je vous dis. Pour labourer, on doit retourner la terre, n'est-ce pas? C'est donc que cette terre était pleine de friches, pleine de mauvaises herbes, n'importe quoi, et il faut la retourner. Hein, c'est ça, quand le laboureur, il retourne la terre. Et quand la terre est retournée comme cela, alors tout est nouveau, tout est transformé. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il vient nous labourer dans ce sens que il vient nous transformer. Quand il laboure, il transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il vient retourner la terre, si bien que vous ne la reconnaissez plus. Maintenant, c'est un beau terrain qui est là, tout propre, extraordinaire. C'est vraiment un terrain, un champ labouré, c'est merveilleux à voir, n'est-ce pas vrai? On aime regarder un champ labouré, tandis que c'est un champ plein de détritus, d'herbes, de mauvaises herbes. Vous n'osez pas y aller parce qu'il y a peut-être des serpents aussi là-bas dedans. Et ça mord, ça pique, ça fait n'importe quoi. Quand vous avancez là-dedans, vous faites ça. Faites attention. Mais là, quand la terre est retournée, le laboureur doit retourner la terre, ce qui veut dire que Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Amen. De nouvelles créatures. Et que désormais, notre désir est de faire sa volonté et non la nôtre. Il faut qu'il y ait une différence entre un chrétien et un non-chrétien. Une nouvelle vie, un nouvel objectif, de nouvelles dispositions. Tout est transformé. L'ivrogne n'est plus ivrogne, le menteur n'est plus menteur, le voleur ne met plus... C'est fini. L'immoral, c'est terminé. Il y a un changement. Celui qui avait ses passions, c'est terminé. Ah oui, mais moi... Mais toi, quoi? T'as accepté Jésus-Christ, pourquoi? Pour continuer à vivre ta propre vie? Ça ne marchera jamais. Si tu t'es converti, c'est pour changer de vie, c'est pour retourner la terre. Et que Dieu veut faire toute chose nouvelle. Si ce n'est pas pour vivre une vie nouvelle, entièrement nouvelle, pourquoi tu t'es converti? Pourquoi? Est-ce que ton témoignage glorifie le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire de toi que avant tu étais ceci et maintenant tu es cela? Avant tu mentais, maintenant tu ne mens plus. Avant tu faisais n'importe quoi. Maintenant tout a changé. Tes passions t'en est libéré. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Je ne veux pas dire qu'on est parfait, mais c'est une nouvelle vie. Autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. Il se passe quelque chose. Il y a un témoignage positif de la grâce, de la puissance, de l'amour de Dieu. Alléluia! Mais voir des chrétiens qui sont toujours les mêmes pendant 15 ans ou 20 ans, c'est dramatique. Et il faut se poser des questions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si l'Esprit de Dieu est vraiment en nous, l'Esprit de Dieu crée en nous de nouveaux désirs, n'est-ce pas vrai ? Une nouvelle soif pour le Seigneur, une nouvelle soif pour sa parole, une nouvelle soif de vivre dans la lumière, la pureté, la sainteté. Tout cela, c'est le fruit normal de la présence de Dieu et de l'Esprit de Dieu en nous. Amen. S'il n'y a pas ces désirs, c'est que l'Esprit de Dieu, ou il n'est pas là, ou alors il est complètement éteint, attristé. Si vraiment l'Esprit de Dieu est en vous, vous aurez le désir de vivre plus près de Jésus, de lui ressembler toujours plus. Ce sera votre désir. C'est pas seulement pour les prédicateurs. On dit, ah oui, ça c'est pour les prédicateurs, c'est pour vous, là, vous prêchez. Mais c'est pas pour moi. Ah oui, c'est pour nous. Nous, on doit se donner, puis vous, vous devez vous balader. Vous promenez. Et puis recevoir les bénédictions. Nous, on doit prier, jeûner pour que vous receviez les bénédictions, et puis vous, c'est tout. Simplement là pour les recevoir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est une vie chrétienne lamentable. Quelqu'un qui vit pour soi-même sera toujours insatisfait. Laissez-moi vous dire, vous ne pourrez jamais satisfaire un égoïste, jamais. Et quand on devient chrétien, l'égoïsme est mis de côté. Parce que le péché, c'est justement l'égoïsme. C'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. C'est cela, le péché. C'est dire maintenant, c'est dire je fais ma volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Mais quand tu es sauvé, c'est l'inverse. C'est-à-dire à partir de maintenant, je ne veux plus faire ce que je veux, mais je veux faire ce que tu veux. Amen. Troisième chose que le laboureur doit faire, il doit faire des sillons droits. Comme vous avez vu, quand un laboureur laboure, il ne va pas en travers, comme ça, il ne va pas dans tous les sens. Il a un objectif et il fait des sillons tout droits. Parce qu'il regarde un objectif précis qui est Jésus. Mais quand le laboureur commence à regarder derrière et avancer comme ça, il va dans tous les sens, il ne pourra jamais avoir de sillon droit. Le sillon droit, c'est quoi ? C'est une vie qui glorifie le Seigneur, une vie totalement qui marche droitement derrière le Seigneur. Une vie droite. Tout ce qui est tortueux disparaît complètement de votre vie. Maintenant, vous marchez dans la lumière. C'est marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! C'est cela, c'est marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Aimes-tu la lumière? Aimes-tu la lumière? C'est un bon signe si tu aimes la lumière. Quatrièmement, le laboureur doit avoir une bonne semence. Un laboureur ne sème pas n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi. Il doit avoir une bonne semence, le semeur. Il doit semer une bonne semence, et vous le savez comme moi, cette semence c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons en être remplis. Soyez remplis de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Et là, il y a une vérité aussi importante. Cette parole... Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, cette parole doit être en nous. Plus cette parole est en nous, plus nous aurons de la facilité à découvrir la volonté de Dieu dans notre vie. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ils ne savent pas où ils en sont. Parce que cette parole n'habite pas en eux abondamment. Plus cette parole sera abondante en vous, plus vous aurez de la facilité à découvrir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient du diable, ce qui vient de l'homme. Tout cela, c'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est là une bonne semence. Et vous devez vous en nourrir et en être rempli. C'est une vérité extrêmement importante. Parce que pour découvrir les erreurs, les mauvaises semences, les mauvaises graines, il faut d'abord bien connaître la vérité, bien connaître ce qui est vrai pour discerner ce qui est faux, n'est-ce pas vrai ? Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans beaucoup d'erreurs, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. S'ils connaissaient la vérité, eh bien, ils discerneraient l'erreur. Mais ne connaissant pas la vérité, n'étant pas remplis de cette parole, ils tombent dans le premier piège venu. Et cela, malheureusement, est une expérience de multitudes de chrétiens aujourd'hui. C'est bien d'écouter la parole à l'église, mais vous devez avoir une méditation personnelle. Personnelle. Et vérifiez toujours tout ce que vous entendez à la lumière de la parole de Dieu. Ce que je vous dis aussi, vous devez le vérifier. Et si vous venez me dire, hey, pasteur, j'ai vérifié tout ce que vous dites, ben, je vous taperai sur l'épaule et je dirai merci, c'est bien, continue. Continue. Celui qui prêche la vérité n'a pas peur d'être contrôlé. C'est celui qui ne prêche pas la vérité, qui dit n'importe quoi, qui a peur d'être contrôlé. Au contraire, moi je serais très content que quelqu'un vienne me dire, tu sais, j'écoute bien, là. Oh, tu parles bien là, toi, mais fais attention. Hein. Je lui dis, t'as raison. Fais attention, vérifie, contrôle. Vérifie. Tandis qu'un autre vient, le dernier prédicateur qui passe, c'est toujours le dernier qui a raison. Tous les autres, il n'y a plus rien. On dirait que la personne n'a rien entendu, c'est le dernier. C'est le dernier. Cela veut dire que la parole de Dieu ne pénètre pas dans le cœur. Il n'y a plus de discernement. On doit être comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être des chrétiens de Bérée. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas seulement la bonne semence qui va être semée, mais des mauvaises graines. Alors avec la semence, la bonne semence, il va y avoir des épines, des ronces et n'importe quoi. Et vous savez que c'est comme ça que le mal se fait et que finalement la semence n'arrive pas à porter des fruits. Et il n'y a rien qui arrive à maturité. Quelle tragédie! La semence est là, mais il y a autre chose qui étouffe. Ces mauvaises graines sont là. Si vous ne les arrachez pas, tout va étouffer. Et il n'y a pas de fruits qui arrivent à la maturité. Et pour terminer, cinquièmement, le laboureur s'attend à porter, à ce que son champ porte des fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Porte des fruits que son champ rapporte. Il ne sème pas pour dire, bon ben ça va, c'est terminé. Non, il s'attend à ce qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait des fruits. C'est normal. Mais pour beaucoup de chrétiens qui ne portent pas de fruits, ça devient presque normal. Ah bon? C'est presque normal que tu ne portes pas de fruits? C'est très dangereux d'avoir un tel raisonnement. Et j'ai pris quelques versets, là, je vous les donne en vitesse maintenant. Concernant les fruits, j'ai pris plusieurs textes. Vous savez, par exemple, dans Marc 11, 13, Jésus a dit, il est arrivé vers un figuier et il n'était pas content de ce que le figuier ne porte pas de fruits. Vous le savez, n'est-ce pas? Il n'était pas content. Il n'a pas dit, oh, c'est rien du tout. Non, non! Le figuier était là pour porter du fruit. Comme la semence semée doit porter du fruit. Si la parole de Dieu est abondamment en toi, elle doit porter du fruit. Il doit se passer quelque chose. Tu es toujours le même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur n'est pas content. Il s'attend à ce que tu portes du fruit. Et dans Luc 8, 14, juste un petit peu avant, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Regardez le mot fruit, il revient ici. Et ici, c'est point de fruits. Ça pousse, mais ça sèche. Ça pousse, mais ça ne porte pas de fruits. Quelle tragédie! On dira, ah, ça y est, ça pousse, c'est bien là. Là, il y a beaucoup d'espoir. Mais au bout d'un temps, pouf! Pourquoi? Il y a une autre semence qui est là, une mauvaise graine. Et ici, c'est quoi? Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Mes amis, tout cela, ce sont des épines. Et vous savez que les épines, ça pique. Quand vous allez dans les épines, ça, c'est écorché, il y a des blessures. Et si vous ne corrigez pas, si vous ne vous désinfectez pas, bientôt c'est l'infection et ce sera très grave. Ce sont des choses qui apparemment sont insignifiantes. Une épine, c'est pas grand-chose, un petit peu. Mais allez-y souvent parmi les épines. Et vous verrez que si vous ne faites rien, ces petites épines peuvent engendrer de grandes souffrances et de grandes maladies, de grandes difficultés et de grandes conséquences. Et ça commence par une petite épine. Par une petite chose. Un petit plaisir de la vie que Dieu condamne. Une passion coupable. Que l'on garde dans son cœur. C'est rien, oh c'est rien, c'est rien, c'est rien, tu crois que c'est rien. Mais en attendant, l'ennemi fait son travail. C'est l'épine qui est là. Et tu vas et tu reviens avec l'épine. Et l'épine te frotte et te frotte et te frotte et te frotte. Jusqu'au jour où il y a l'infection, il faudra bientôt presque couper. Si tu veux sauver ta vie. Il ne porte point de fruits à maturité. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Voir un arbre, un bel arbre qui pousse bien, tout formidable, et vous arrivez, il n'y a pas de fruit. Mais qu'est-ce que c'est que cet arbre-là? Bon, je le coupe, j'en veux pas. C'est contre nature, n'est-ce pas, qu'un arbre ne porte pas de fruits. Ça pousse bien, tout est bien, il y a les feux, il y a tout, vous êtes là, l'ombre, et tout, vous êtes bien. Mais vous attendez des fruits. Et un chrétien, c'est ça. Il doit porter des fruits. Amen. Le laboureur, c'est ça. Il sème, mais il faut qu'il pose quelque chose. Pas des ronces, pas des épines. Il y a les fruits de l'esprit, vous connaissez, n'est-ce pas? Galates 5, 22. Les fruits, encore une fois, des fruits. Alors là, il y en a 9. Une bonne série, t'as vu, des fruits, des beaux fruits, là. D'un seul coup, l'arbre a des fruits. Quels sont ces fruits? Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. 9 fruits extraordinaires. Est-ce que vous les avez, ces fruits? Est-ce que c'est là? Est-ce que vous les portez? Est-ce que vous recherchez à les porter? Est-ce que vous cherchez à manifester ces fruits? Mais les chrétiens, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. L'amour, la joie, la paix, la bonne chose, là, ils s'énervent pour n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Il faut être là pour une patiente, ils doivent être patients pour une petite chose. Non, ils s'énervent tout de suite, on va tout promener. Les moindres petites choses, c'est un véritable scandale. Et vous les regardez, mais ça va pas ou quoi? Pour un petit truc de rien du tout, tu fais des montagnes. Où est le fruit de l'esprit? Et toujours l'autre, c'est cette parole blessante. Toujours une parole qui est là pour blesser. Et on s'en fait pas. Et on pense que c'est comme ça, c'est normal. On est tellement habitué à ne pas porter de fruits qu'on pense que c'est normal. Les fruits de l'esprit. Le Seigneur attend cela de votre vie. Si vous êtes vraiment né de l'esprit, les fruits de l'esprit doivent être là. Amen. Il le faut, il faut le rechercher. Si vous voulez vraiment avoir une vie chrétienne fructueuse, il faut cela. Amen. Galates 5, 22. Hébreux 13, 15. Il est dit que nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. C'est le fruit de la louange qui confesse. Alors je vous assure, quand votre vie respire la présence de Dieu, que les fruits de l'Esprit sont là, alors c'est l'Esprit en vous apporte une louange qui est vraiment agréable à Dieu. Amen. Sinon, qu'est-ce qui se présente? Et je termine par là. Qu'est-ce qui se présente? On devient un peu comme les pharisiens. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Veillons bien à ne pas tomber dans un tel piège. Ce peuple m'honore. Et le texte grec, c'est son peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Quand il y a les fruits de l'esprit, cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, quand tout est là et qu'on recherche ces choses, alors la louange sort spontanément, librement, joyeusement. Alléluia! On n'a pas toujours à vous pomper pour dire « Alors, allez, on y va ou quoi ?» Ça doit venir tout seul, spontanément, et de tout notre cœur. Amen. Et c'est ainsi que nous porterons du fruit. 5 vérités essentielles que le Seigneur nous aide à être de tels laboureurs. Amen. Tel laboureur, un objectif. Retourner la terre, avoir des sillons droits. Une bonne semence et porter des fruits. Tout cela, chacun d'entre nous peut le faire, mes amis. Il n'y a aucune excuse. Chacun d'entre nous, Dieu attend des fruits. Il attend que des fruits se manifestent dans ta vie. Si tu dis que tu es chrétien, honore-le, glorifie-le, et ta vie sera une bénédiction aussi pour les autres. Amen.
Je propose que nous nous levions dans la présence de Dieu, parce que le Seigneur va toucher quelques malades au milieu de nous. Et j'aimerais que nous ayons tous un cœur compatissant. Comme celui du Seigneur, c'est aussi un fruit de l'esprit, être compatissant, rempli d'amour pour ceux qui souffrent. Seigneur, tu étais toujours ému de compassion devant la souffrance. Et nous te remercions parce que si tu guéris les malades aujourd'hui, c'est pour nous montrer que tes paroles sont esprit et vie. C'est pour nous montrer que tu es vivant aujourd'hui. est que nous avons à prendre ta parole au sérieux. Que tu ne parles pas pour rien dire. Et ce que tu viens de nous dire, nous voulons l'appliquer dans notre cœur. Au travers de ce message, Seigneur, tu viens de nous parler. Puissions-nous serrer ces paroles dans notre cœur et t'obéir quand tu nous demandes quelque chose. Le Seigneur va rétablir les cordes vocales de quelqu'un qui sont abîmées. Alléluia, merci Seigneur de ce que tu poses ta main sur cette gorge. Alléluia. Et de ce que tu rétablis ces cordes vocales endommagées. Au nom et par la puissance de Jésus, reçois cette guérison. Sois touché par le Seigneur qui t'aime et qui veut que tu chantes de tout ton cœur à la gloire du Seigneur désormais. Alléluia. Utilise ta voix pour le Seigneur, pour rendre témoignage,
gloire à Dieu,
pour chanter à sa gloire, car il en a besoin. Il veut se servir de toi. Le Seigneur touche quelqu'un qui a un genou souffrant, problème de rotule. Seigneur, merci, parce que tu fais toutes choses à merveille. Tu touches ce genou et tu rétablis la situation au nom de Jésus pour ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, tu es le vivant. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur touche quelqu'un qui a des problèmes de foi. Tu ne peux pas tout digérer. Parfois, tu rejettes tout ce que tu viens de manger. Eh bien, le Seigneur pose ta main aussi sur ton foie. Alléluia. Et la puissance de Jésus traverse ce foie et le guérit. Et que tous ces organes digestifs fonctionnent désormais normalement. Parce que Jésus, sa main guérissante, pourras toucher, et tu pourras dire, aller dire partout, Jésus m'a touché, j'étais souffrant, j'avais cela, et désormais, je veux ouvrir ma bouche pour rendre gloire à ce Seigneur merveilleux, et le dire.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Il y a une famille ici représentée qui a un enfant qui a une maladie dont personne ne connaît l'origine et qui parfois produit de la fièvre, l'affaiblit terriblement. Moi, le grand médecin, dit le Seigneur, je viens poser ma main sur cet enfant. J'interviens et je fais cesser cette maladie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
Merci.
Le Seigneur Jésus fait cesser la maladie de cet enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Car c'est à eux que revient alors mon royaume. Mon royaume et ma justice est pour eux. Et je suis aussi là pour les défendre, les enfants. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et il y a une dernière parole. Une femme qui a une grosseur sur le sein droit. Que tu es anxieuse et la main du Seigneur est là.
Merci, Seigneur.
Elle va te toucher.
Alléluia.
Et faire disparaître cette grosseur. Elle n'est plus. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que cette grosseur
merci,
n'est plus. Parce que Jésus
merci,
t'a touché. Oh, merci, Seigneur. Merci, merveilleux Alléluia. Sauveur. Nous voulons t'adorer, te louer
Alléluia.
De tout notre cœur pour ta puissance de vie, pour ta parole de vie.
Alléluia.
Et il a encore une parole d'exhortation à dire à quelqu'un qui se demande pourquoi le Seigneur n'intervient pas plus vite dans ses difficultés. Et voici ce que le Seigneur te dit. Il m'arrive de casser ton petit nid si confortable dans lequel tu te trouves. Mais derrière ce changement brutal de circonstances dans ta vie, se tient ma main d'amour et mon plan éternel pour toi. Je ne suis ni cruel, ni capricieux. J'œuvre dans ta vie pour ton bien, car je veux te rendre conforme à mon image, afin qu'un jour tu jouisses des glorieux bienfaits de ma présence et de mon ciel éternellement.
Alléluia.
Alléluia. Seigneur, merci.
Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Oh, oui. Merci.
Et le Seigneur me demande de donner cette parole prophétique pour tout le peuple ici. Peuple de Dieu, que j'ai donné hier, mais qu'il veut que je répète aujourd'hui pour vous tous ici. Pour cette fin des temps dans laquelle nous sommes entrés déjà depuis plusieurs années, mais qui va en s'aggravant et en devenant toujours plus difficile pour tout le monde, tous les habitants de la terre, parce que les jugements de Dieu arrivent et Dieu prépare son Église et son épouse pour l'enlever et la prendre auprès de lui. N'oublions pas de nous préparer pour sa venue. N'oublions pas, il va venir. Mon peuple racheté, ne crains pas d'affronter ces temps difficiles de la fin avant mon glorieux retour. Comme j'étais avec mes disciples dans la barque et qu'avec une seule parole, j'ai su calmer le vent et la tempête, je suis encore avec vous tous les jours, dans chacune de vos tempêtes. Et si je suis avec vous, dit le Seigneur, qui pourrait donc être contre vous? Tant que je suis avec vous et que vous êtes avec moi,
amen,
je maîtriserai chacune de vos tempêtes et aucune vague ne pourra vous submerger jamais. Vivez toujours en cherchant à me plaire dans toutes vos voies. Soyez vainqueurs du monde et de ses tentations. Triomphez en moi. Soyez vainqueurs. Quant à moi, je suis et serai tous les jours avec vous, et cela jusqu'à la fin du monde,
alléluia,
et jusqu'à ce que je revienne,
alléluia,
vous chercher et vous transporter,
alléluia,
dans ma gloire céleste, dit,
amen,
le Seigneur.
Alléluia.
Alléluia. Louons le Seigneur quelques,
oh,
instants.
Gloire à ton nom.
Alléluia. 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 Loué sois-tu, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Tu es le grand vainqueur de Golgotha.
Espérance glorieuse.
Amen, Seigneur. Tu reviens bientôt.
Nous allons nous préparer pour cette.
Soyons prêts. Soyons prêts, chers,
alléluia,
amis. Soyons prêts. Efforçons-nous d'être prêts, car il revient sur les nuées du ciel.
Amen.
Alléluia.
Gloire à Dieu.